Nous sommes le lundi 13 novembre 2023, il sonne 11h et nous vous saluons, vous chers et fidèles et bienveillants auditeurs du Club La Presse, vous qui nous écoutez sur les antennes de Radio Canal FM à Lomé, ses environs, mais également un peu partout au Togo, par le biais des radios consoeurs et partenaires, Radio Courtoisie à Dapaon, Radio Sama FM à Baga Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takbamé, Radio Lumière en Ero et un peu partout dans le monde par les radios numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio, l'application Canal FM ou encore même la chaîne YouTube. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. À la technique, Victor Gwekoku Michel, Tominga et Jérôme Kodjo Akucha. Autour de la table, deux confrères déjà installés, le troisième, voire un quatrième, qui sont en train d'arriver, juste à nous inviter à méditer sur cette phrase de Ralph Waldo Emerson qui dit « Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous autre chose est la plus grande réussite. » Encore une fois, « Être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous autre chose est la plus grande réussite », nous enseigne Ralph Waldo Emerson. Eh bien, de quoi allons-nous débattre aujourd'hui? D'abord, la signification de la journée mondiale du 13 novembre. Nous allons en parler et puis dans la foulée, aborder une page d'humanisme et de solidarité. Également, partager quelques dures et tragiques réalités de nos routes avec quelques lueurs d'espoir à l'horizon. Et dans la foulée, les recherches par les autorités togolaises de partenariat et de coopération de par le monde. Et naturellement, vous vous demandez qu'est-ce qu'il en est de cette affaire de cambriolage au domicile d'un ministre, cette affaire qui pousse des tentacules, dont une action de convocation adressée à deux de nos confrères aujourd'hui. Voilà le menu du Club de la Presse, avec comme débatteur autour de nous, Jacques Djakouti Laya. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Merci. Ah, depuis quelque temps, les gens me demandent c'est quoi Laya qui vient s'ajouter à Jacques Djakouti. J'ai demandé que toi-même tu en répondes, Jacques.
Bon, en fait, Arim Yahweh est mieux placé parce que vous savez, nous avons des origines un peu musulmanes.
Oui.
Donc, c'est un nom musulman qui signifie, au fait, la tabaski. Mm-hmm. Je suis né un jour de tabaski.
Donc, Laya, c'est ton...
Lahia.
Lahia. C'est moi qui déforme.
Voilà.
Lahia. Alors, si Jacques était musulman, on l'appellerait Lahia.
Ouais.
Mais tout en étant chrétien, il garde ça. Pour dire qu'avant d'être Djakouti à Lomé ici, il est un petit peu là, mais dans les fins fonds de la région des savanes.
Ouais.
Comme quoi, comme on dit chez nous en effet, la poule ou le coq n'a jamais honte de son poulailler. Arim Yahou Tchanyahou, bonjour.
Sass, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Et je souhaite une agréable semaine à tout un chacun de nous.
Merci,
Didier.
Comme Didier Assoba de Togo Breaking News, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés. Donc j'espère que tout le monde comprend déjà Komi, donc pas besoin d'expliquer.
Et moi c'est Kodjo.
Ouais.
Kodjo, ça veut dire que je suis un garçon né lundi et je suis tété, ça veut dire que premier garçon... de ma main, hein, d'origine à Dangbe. Mm-hmm. Hein. Eh bien, Jacques Djakouti, arbitrairement, hein, c'est toi que je choisis, c'est pas moi, c'est le club de la presse qui te choisit pour commenter cette journée. Le 13 novembre, c'est la journée mondiale des pauvres. Mm. Une journée décrétée par le pape François, journée qui s'étend. Et le message du pape dit que ce n'est pas la pauvreté que nous défendons, mais le pape nous appelle à soigner la dignité des pauvres autour de nous. Pour cette journée au moins, le pape nous invite à avoir un regard, un geste de cœur et de solidarité à l'endroit des pauvres autour de nous. Je ne sais pas si tu connais un pauvre à Canal FM ici, à Lomé un peu partout. Eh bien, c'est toi qui portes le message du club La Presse à l'endroit de tous les pauvres.
Vous savez, ça, avant de venir à Canal FM ici, je sortais de chez moi pour venir. J'ai vu au moins 3 femmes qui attendaient. Il paraît qu'elles voulaient me voir. Il y a une qui avait une ordonnance de 3 500, l'autre avait une ordonnance de 2 000, et l'autre disait qu'il veut acheter VAT parce que son enfant a eu un problème d'accident. J'ai regardé le ciel et la terre. Je me suis rappelé de la journée d'aujourd'hui, mm-hmm, parce que j'ai suivi un peu le message du pape.
Oui.
Et ça m'a vraiment touché. J'ai dit, mais ça, c'est l'épreuve même, ça. Ce qui veut dire que il faut subvenir aux besoins, effectivement, de ces 3 femmes-là avant de sortir. Ce n'est pas... On ne peut pas mentir. J'étais obligé d'appeler un ami pour me faire un crédit, mm-hmm, avant de pouvoir remettre cet argent-là à ces 3 femmes avant de venir ici. Mm-hmm. Parce que je vous dis, si je ne le faisais pas ça, je ne pouvais pas venir m'asseoir ici pour parler. Mm-hmm. Parce que je ne connais pas les dames, je ne sais pas comment elles ont fait, elles sont venues vers moi. Mais les laisser partir comme ça, vraiment, ce sera une honte. Et je ne pourrais pas vraiment me libérer au cours de cette journée. Donc, c'est pour vous dire, par rapport au message du pape et à cette journée, il faudrait que nous puissions aider les uns et les autres. Ça, c'est le plus important. On l'a toujours dit, je l'ai dit dans ce studio SAS, il faudrait que dans ce pays, nous puissions avoir les riches intermédiaires. Parce que mm-hmm, le constat fait, c'est que il y a extrêmement ceux qui sont riches et extrêmement également les pauvres. Donc, entre les pauvres...
Il n'y a pas de classe
intermédiaire. Il n'y a pas l'échelle, quoi, entre les pauvres et les riches. Finalement, quand un pauvre tombe, c'est que c'est fini. Quand le riche tombe aussi, il n'y a pas quelqu'un pour le soulever. Donc, franchement, il faudrait qu'on puisse créer effectivement cette richesse-là, essayer d'aider les uns et les autres.
Merci. C'est bien que nous ayons une minorité extrêmement riche. On peut comprendre également qu'on est une large base de pauvres, mais travaillons à avoir une classe moyenne qui va jouer un peu le tampon entre les super riches et les super pauvres. J'ai dit que j'allais m'arrêter à Jacques, mais je fais exception à Rimiaou. Il y a cette scène-là que je voudrais que nous partagions. Il t'arrive souvent, pendant que tu vas sortir de ce studio pour aller monter dans ta voiture, tu vas voir une dame, hein, un enfant au dos, avec sur la tête un grand bagage de fruits ou bien d'aliments, il te demande de lui acheter ce qu'elle vend. Je t'ai souvent surpris ne pas rester indifférent devant une telle scène.
Oui, mais avant tout, c'est nos mamans. C'est nos mamans. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui, je me dis que la description que Jacques Djakouti vient de faire, nous la vivons tous les jours. Moi, je ne peux pas le dire à ce micro. Je ne sais pas combien de gens pensent que nous sommes dans la classe de ceux-là qui sont hautement nantis, et combien de gens défilent chez nous également pour nous demander les services que Jacques vient de décrire. C'est pas la peine de le dire, mais quand je vois une maman, un bébé au dos, avec un gros fardeau, et qui dit bonjour, moi, même si j'ai pas envie de consommer ce qu'elle vend, et comme tu l'as décrit, je le fais pour l'encourager, je le fais en pensant à ma vieille, je le fais en pensant à toutes les femmes qui sont en train de souffrir et qui sont en train de se battre pour sortir de cette précarité, surtout pour les enfants que nous avons été et que nous avons aujourd'hui. Et donc je le fais, et si je ne le fais pas, je me dis que j'ai la conscience lourde. Exactement, si Jacques n'avait pas pu faire ce qu'il a fait aujourd'hui, je ne crois pas qu'il devrait avoir une conscience libérée. Il l'a fait et aujourd'hui, il est bien. Tous ceux qui ont l'argent et qui ne donnent pas, je vais vous dire quelque chose de particulier. Chaque fois que quelqu'un donne, il est ouvert. Je vous donne un exemple. Il y a de ces ministres, de ces DG, de ces hauts pêcheurs. Quand les gens les sollicitent, ils ne donnent pas. Quand on les appelle, ils ne répondent jamais. Mais quand ils donnent, le premier coup de fil décroche. Parce qu'il sait qu'il a fait du bien. Et donc tout le monde sait que le bien est important pour notre vie. Le bien, c'est le souffle que Dieu nous a donné. Merci. Et quand les gens n'ont pas cette façon de faire, ils se tuent à petit coup eux-mêmes.
Le 13 novembre, la journée mondiale des pauvres, et le pape dit, ce n'est pas la pauvreté que nous célébrons, que nous défendons. Mais le pape nous invite à soigner la dignité des pauvres qui abondent autour de nous. Alors, ne serait-ce que pour aujourd'hui, ayons un regard, un geste de cœur et de solidarité à l'endroit de nos voisins qui sont pauvres. Et d'ailleurs, la leçon même de la vie, les religions, l'islam nous parle de la zakat, c'est comme ça que vous l'appelez.
Oui,
absolument. Le christianisme nous invite à la charité. Oui. Et dans notre société, c'est la solidarité. Je me rappelle quand j'étais petit garçon au village, la famille, ce n'était pas seulement papa, maman, les enfants, non. C'était les oncles, les tantes, c'était toute la famille, tout le quartier, tout le village qui éduquait les enfants. C'était la solidarité. Par le développement, nous perdons de plus en plus ces valeurs. Mais Didier Assogba, ne serait-ce qu'un regard à l'endroit du pauvre autour de nous.
Donc moi, je peux dire que tous les jours sont des journées mondiales de célébration, je ne dirais pas des pauvres, mais de cette solidarité envers, envers son prochain. Pour peut-être à venir ici, le doyen Jacques peut même se rappeler de cette scène. On sortait d'une émission sur une autre radio un lundi, il y a à peu près 3 semaines ou 4 semaines, et il y avait une dame qui avait un peu comme des tisanes sur la tête, avec un bébé au dos, un autre qui peut-être peut avoisiner deux ans et demi, pas 3 ans quand même, et qui est venu vers nous. Et qui, vous voyez, que toute la journée, elle s'est promenée, mais elle n'a rien vendu. Oui. Et elle a demandé qu'on puisse lui acheter au moins quelque chose avec lequel elle peut rentrer à la maison, faire à manger à ses enfants. Ça m'a tellement touché. J'ai dû lui acheter, le deuxième se souvient, j'ai dû lui acheter une de ces tisanes-là pour que la dame puisse rentrer à la maison avec l'argent là pour...
Et comme ça, sa dignité est sauve.
Naturellement, oui. Elle peut retrouver de la fierté pour tout ce qu'elle a, s'est promenée à Lomé toute la journée, et avec toute la méfiance qu'il y a, les gens pensent que ce qu'elle vend, c'était pas du bien, donc du coup, elle n'a rien vendu pratiquement. Et donc du coup, ça m'a tellement touché le jour-là. C'est la même scène que nous vivons tous les jours. Et ça, si tu permets, peut-être on peut même en faire le sujet phare de l'émission, mais aujourd'hui,
c'est important.
Mais la question, naturellement, la question que nous vivons aujourd'hui, Jacques a l'habitude de dire, il a parlé de riches intermédiaires aujourd'hui. Mais que sert-il? Que gagnent-ils les extrêmes riches du Togo à ne jamais soutenir les extrêmes pauvres? Malheureusement, nous, journalistes, comme ça, quand nous finissons de parler à ces micros comme ça, et quand on va sortir tout à l'heure, vous allez voir, tout le monde pense que les journalistes sont les riches du pays. Oui. Alors que nous aussi, nous sommes dans la base des plus pauvres. Et nous aussi, les gens pensent que nous sommes quelque chose. Nous sommes absolument rien. Et merci. Nous faisons le combat pour tout le monde, pour que la société
nous tous. À nous excuser, moi-même, vous, et d'aider tous les journalistes, nous nous excusons auprès de ceux qui viennent nous solliciter, qui pour se faire payer une facture de ceci, de cela, qui pour payer les frais de son enfant, qui pour payer une ordonnance, qui pour trouver du boulot. Tous les jours, nous sommes assaillis. Des gens ont passé tel concours, ils viennent vous demander d'intercéder auprès des autorités pour qu'ils puissent réussir. Que pouvons-nous? Nous avons une force, une arme très puissante, c'est nos articles et nos micros. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire au-delà? C'est une question qu'on ne peut pas dire.
Non, ça, ce que je voulais dire, il faut te sentir heureux quand quelqu'un vient te solliciter. Sois heureux, parce que il y a certains, on ne peut pas les aborder. Si toi, on t'aborde pour te demander quelque chose, il faut se sentir heureux. C'est parce qu'on a vie en toi une étoile. Donc, moi, quand quelqu'un vient vers moi pour me solliciter, si j'en ai, je le fais. Si j'en ai pas, je sais que j'en ai pas.
Merci.
Mais quand
Jacques.
Quelqu'un vient vers toi pour te solliciter, pour l'aider, quoi, pour quoi que ce soit, il faut te sentir vraiment heureux.
Merci.
Parce que certains sont actuellement accouchés au niveau des hôpitaux.
Oui.
Certains sont à la maison, ils ont beaucoup de moyens, mais ils sont malades.
Merci.
Malheureux,
merci,
mais malheureux.
Merci. Voilà. Eh bien, je me sens heureux. Alors, je dis à nos amis, hein, notamment le groupe des non-voyants, hein, du club La Presse, venez nous rendre visite autant que vous pouvez, même si nous n'avons rien à vous payer, le transport retour, au moins nous allons nous voir, nous serrer la main.
Merci.
Et parler entre nous. Sans transition, Didier Assogba, je ne sais pas si tu as pu aller chez toi à Couvé ce week-end, sinon l'information a circulé de façon virale sur les réseaux. Et malheureusement et tragiquement, c'était vrai. Et aujourd'hui, c'est le confrère Mega Info qui nous parle de ce tragique accident qui est survenu en fin de journée du vendredi 10 novembre 2023 à Gbatopé. Dans la descente, avant d'arriver à Gbatopé, une quarantaine de kilomètres de Lomé ici, quand un camion citerne transportant de l'essence s'est renversé, provoquant une explosion. Malheureusement, ce camion était suivi par plusieurs véhicules dont un autre camion citerne, et tous ces véhicules ont été surpris par et l'explosion et les flammes. La scène a été atroce d'après les témoignages recueillis. Le bilan, il est très grave. 8 morts sur le coup, 9 personnes en soins et intensifs. Voilà ce tragique accident qui nous rappelle encore la dure réalité de nos routes. Et dans la foulée, Liberté de ce jour nous parle de tensions à la frontière Togo-Burkina, des transporteurs mécontents de l'augmentation exagérée des frais de laissez-passer qui font une sorte de grève ou bien de refus de travail. On nous annonce des files de camions qui s'étalent sur des dizaines de kilomètres à partir de Saint-Cassé. Voilà les dures réalités de nos routes. Peut-être que la solution peut arriver bientôt parce que le confrère Togo Matin nous informe aujourd'hui que le Togo a été présent à l'Africa Investment Forum. Ce forum qui s'est tenu à Marrakech, au Maroc, c'était du 8 au 10 novembre dernier. Le Togo, représenté par la ministre de la Promotion de l'Investissement, Manuela Santos. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que selon Togo Matin, la ministre Manuela Santos a présenté au forum de Marrakech deux projets. Le premier, c'est le projet ferroviaire Lomé-Saint-Cassé. Et le deuxième projet, c'est le projet de développement de l'autoroute de l'unité, donc Lomé-Saint-Cassé encore, des projets qui nécessitent des investissements importants. Eh bien, j'apprends par cet article que le Togo n'a pas abandonné ni le projet de l'autoroute de l'unité, ni le projet de voie ferrée, Lomé-Saint-Cassé, mais vivement que ces deux projets adviennent pour nous soulager des drames, des tragédies de Gbatopé ou encore peut-être même de ce qui se passe au nord du Togo.
Oui, nous sommes heureux de constater et d'apprendre que ces projets ne sont pas abandonnés. Nous avons toujours parlé de la nécessité pour le Togo d'avoir un axe routier plus vaste et plus moderne entre Lomé et Saint-Cassé, connaissant justement la situation de la nationale numéro 1. Et si un projet de voie ferrée peut venir constituer une alternative, je pense véritablement que ce sera œuvre utile naturellement à la République, parce que on va éviter beaucoup d'accidents. La semaine dernière, j'ai perdu un ami, un collègue dans un accident sur la nationale numéro 1 dans les encablures entre Annie et Niamasila. Ça m'a tellement fait du mal parce que tu es par un titan. Et donc, vous voyez, quand on vit des choses comme ça et qu'on en parle, c'est apprendre qu'il y a des projets comme ça, c'est nous allons dire vivement que ces projets deviennent rapidement réalité pour que cette tragédie, ces drames comme ça n'arrivent pas dans le pays et ce sera œuvre utile à la nation. Et aujourd'hui, quand on va revenir pour sur l'accident de Batopé, vous avez vu, vous connaissez cette descente avec tous les risques possibles. C'est pas vraiment une montagne, mais bon, cette colline et la descente là-bas, ça provoque rapidement. Enfin, ça donne lieu rapidement à des accidents. Et quand on dit, quand on vous décrit un peu la scène de ce camion citerne qui connaissait une fuite, mais qui savait pas, avec tout le carburant qui versait sur la route, sur une longue distance, et finalement un autre Titan qui suivait, qui a été dérouté, donc qui n'avait pas de frein, ou je sais pas, selon ceux qui ont vu la scène, dit qu'il y avait défaut de freinage, qui allait cogner l'autre, et vous voyez le drame, c'est rapidement arrivé. On peut pas expliquer un accident, mais continuons de prendre des précautions. Nos condoléances aux familles éplorées, parce que c'était vraiment atroce. Un ami a perdu quelqu'un comme ça dans cet accident aussi hier, et en parlait hier soir, c'était vraiment dramatique. Et donc c'est des drames qui arrivent comme ça, on est vers la fin de l'année. Il faut véritablement que les autorités prennent la mesure de la situation. Les camions citernes comme ça peuvent continuer à vérifier leur, je sais pas comment ils les appellent,
leur cargaison
pour voir s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas de risque, et que ceux qui n'ont pas de frein, il faut tout ça qu'on vérifie, les visites techniques, les systèmes de freinage, pour éviter justement que des drames pareils.
Merci. Harry Miaou, c'est vrai que nous n'étions pas sur les lieux. Nous n'avons pas des témoignages de sources, nous n'avons pas non plus eu accès aux rapports de police établis, mais d'après ce que nous apprenons à gauche et à droite, c'est une partie de ce que Didier disait, les camions citernes transportant du carburant n'auraient pas respecté les conditions optimales, aussi bien pour la cargaison que pour l'état même des deux véhicules. Bon, les témoins parlent ici également d'excès de vitesse, d'imprudence. Alors, nous évoquons tout ça, c'est pour dire que à chaque fois que nous sortons de chez nous, avant de prendre le guidon du vélo ou de la moto ou du véhicule, surtout quand c'est des véhicules lourds qui transportent des produits aussi délicats, le minimum, c'est de s'assurer du maximum de sécurité avant de prendre la route.
Oui. Au-delà de tout ce que vous venez de décrire, je crois que il faut mettre aussi la prière. Il faut prier beaucoup, parce que Didier a dit quelque chose de très 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 sensible. Il a dit un accident, on n'arrive jamais à le décrire. Et c'est vrai, on a dit que le véhicule était en mauvais état, et on a dit tout ce que les uns les autres ont pu dire, mais il faut que nous prions. Il faut que ceux qui ont la volonté et ceux qui savent bien le faire, et chacun de nous, se confie à chaque matin à Dieu. Je vois à côté de ma maison, moi j'ai pris, je suis musulman, je connais certaines familles à côté de chez moi, quand les gens sortent de leur maison, je vois ils font la croix. Et ça veut dire que au-delà de tout ce que nous avons, on comprend qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'état, rassuré de notre voiture, qui est au-dessus de nos connaissances, et on se confie à celui-là, et c'est Dieu, le grand maître, c'est le créateur de tout, l'omnipotent ou bien l'omniscient, c'est lui qui est tout, l'alpha et l'oméga. Donc confions-lui, nous, à lui, à chaque fois que nous sortons, au-delà de ce que chacun doit faire, en regardant si mon véhicule, ma moto, si les pneus, si tout est à jour. Confions-nous tout le temps à Dieu, et j'invite les pasteurs comme les Djakouti, les grands imams, comme on est à la fin de l'année, de prier et de continuer par prier pour le Togo.
Merci. Alors Jacques, ce qui doit t'intéresser toi, c'est que nous découvrons dans les colonnes de Togo Matin que le Togo n'a pas abandonné le projet de l'autoroute de l'unité. Ce dont avait parlé le chef de l'État en personne, cette autoroute qui devrait partir de Lomé, aller à Saint-Cassé. Le second projet, c'est la voie ferrée. Et nous découvrons que le Togo continue de rechercher de par le monde entier des financements pour réaliser ces deux projets. Jacques.
Je crois que vraiment, c'est une très bonne nouvelle, ça. Si cela peut vraiment se réaliser. Vous savez que dans ce studio, on en avait beaucoup parlé par rapport à ce chemin de fer et à l'autoroute également pour desservir un peu le nord, parce que vous savez, Tchanyahu a parlé tout à l'heure, et Didier, des accidents des titans. Vous savez, la plupart, quand vous prenez 50% des décès sur la voie en allant vers le nord, c'est les titans. Souvent, les titans là sont bloqués sur la route, il n'y a pas de signalisation. Les véhicules viennent, ils rentrent sous ces titans-là et ça crée vraiment beaucoup, beaucoup de décès. Si vraiment l'État togolais peut activer ce projet, que ce projet-là puisse se réaliser, vraiment, ce serait une très bonne chose. L'autre aspect que je voulais ajouter de la chose, ça, je voulais inviter nos compatriotes. Vous savez ce qui se passe? J'ai vu un peu ce qui s'est passé au niveau de l'accident de Batopé. Les gens étaient là, certains hurlaient même sur le sol. Par rapport aux flammes. Certains se permettaient même de filmer. Au lieu de venir au secours, effectivement, de ceux qui sont blessés, ceux qui étaient en train de brûler, les gens se contentaient de filmer et de balancer ça sur les réseaux sociaux. Mais je crois que ça, là, vraiment, il faut sensibiliser nos compatriotes. Lorsqu'il y a, par exemple, un accident, prenez d'abord le soin de sauver celui qui est d'abord par terre, au lieu de prendre vos portables et commencer pas à filmer. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, j'ai vu une femme qui criait le jour-là parce que l'enfant était à terre. Il n'y avait rien, il n'y avait pas l'eau. Elle se battait pour chercher du sable, pour mettre sur sa fille. Mais les gens étaient là. Au lieu de l'aider, les gens prenaient le vilain plaisir de filmer la dame qui ramassait le sable et qui mettait sur...
Cela peut s'apparenter à non-assistance en personne en danger.
Vraiment,
les auteurs de cela auraient pu être inculpés.
Bien sûr, invitons nos compatriotes, s'il vous plaît. Lorsqu'il y a ce genre de choses, il faut aider les gens. Et l'autre aspect, ça, moi, ce qui m'a le plus gêné dans cet accident, il y en a qui ont commencé par dérober les autres qui étaient là-bas. Oui, il y en a qui dérobaient les corps qui étaient là. Regardez, vous allez voir les gens renverser le corps pour voir s'ils peuvent trouver une poche quelque part pour prendre quelque chose. Ça n'a pas de sens, mes amis. Quand ces choses se passent comme ça, c'est une solidarité. Faisons tout d'abord pour sauver ceux qui sont à terre, ceux qui sont effectivement blessés, au lieu de nous mettre effectivement à vouloir voler, certains c'est des portables.
Et surtout que ceux qui étaient accidentés, ça pourrait être un parent,
oui,
un ami, un collègue, une connaissance.
Et puis prenons toujours le temps, lorsqu'il y a un accident, lorsque vous passez, freinez un peu, descendez pour aller voir ce qui se passe. Peut-être ça peut être votre parent. Ça y est, je me rappelle, un accident a eu lieu au niveau d'Atikoumé. Le jour-là, j'ai oublié le nom de ce médecin. Quand il passait, il a dû garer sa voiture vers Samaritaine. Il est sorti. Il a pris, je crois qu'il avait, il avait son thermomètre et tout. Il avait l'alcool. Je vous dis, c'est le médecin-là qui a sauvé ce monsieur-là le jour-là. C'est lui qui l'a sauvé. Il s'est arrêté. Il a pris l'alcool. Il a vraiment nettoyé les plaies de ce monsieur. Et finalement, l'ambulance est venue chercher le blessé. C'est comme ça qu'on doit faire. Il ne faut pas toujours, lorsque vous voyez par exemple un accidenté, au lieu de filmer, sauvez quand même la personne d'abord. C'est ce qu'on peut faire, inviter nos compatriotes à faire.
Oui,
il y a quelque chose que je vois régulièrement sur nos routes. Et je crois que, je ne sais pas si c'est la gendarmerie, la police ou le ministère des Transports, il faut qu'on essaye de limiter la vitesse des voitures des différentes compagnies de voyage. Les gros bus-là. Mm-hmm. Je ne sais pas si il vous est une fois arrivé de croiser ces bus-là qui vont à Saint-Cassé, au Niger, un peu partout. La vitesse est excessive. Et je ne sais pas ce qu'on peut leur dire. Avant-hier seulement, au niveau de GTA, un de ces bus-là qui venait du Niger a failli m'écraser. J'étais dans ma voiture, on était à quelques encablures du feu rouge, je voyais des phares, j'entends, je tourne, c'est le bus, il est venu passer via en ville. Et puis là, il allait s'arrêter au feu rouge. Et c'est eux également qui créent des accidents. Je crois que dans d'autres pays, il y a au moins les radars qui flashent. Quand la vitesse est de trop, on peut trouver aussi cette formule en attendant que nous ayons notre autoroute, en attendant que le chemin de fer soit construit d'ici 5 ans ou au-delà. Il faut trouver des systèmes qui permettent de voir ces citoyens qui roulent à tombeau ouvert et qui font comme s'ils ont sacrifié leur âme. Parce que les bus là, ils transportent des centaines de personnes ailleurs. Ce n'est même pas un seul chauffeur qui s'occupe de ces bus. Vous voyez quelqu'un prendre de Lomé, quand il va arriver à Sokoré, il descend, l'autre prend pour aller à Dapao. Parfois, c'est des gens qui dorment. C'est la même chose pour les gros porteurs, les titans. c'est parfois les gens ont envie de dormir, mais sont contraints de tenir le volant parce qu'il est seul pour faire ici d'apparence, pour faire ici je ne sais où, et finalement, fatigue aidant, c'est des gens qui parfois sont nuls et qui créent des accidents. Il faut trouver cette formule-là, qu'il soit 2-2.
Non, c'est pertinent. Jacques, oui. Jacques parlait tantôt d'une bonne partie d'accidents que causent et sont victimes les gros transporteurs, les titans, mais nos bus également causent et sont souvent victimes de ces accidents. Oui. Et pendant que les camions transportent des marchandises, ces bus-là transportent des humains, oui. Des personnes. Et quand ce bus-là fait accident, on peut imaginer la suite. Je n'ai pas besoin de citer d'exemple, hein, de fraîche mémoire, mais ces transporteurs se reconnaissent.
Mais sur la voie de Gbatoupé, là, je connais un peu cette route. Si, par exemple, le gouvernement, je crois que c'est le ministre des Travaux publics, oui. S'il peut mettre un ralentisseur, ça va vraiment beaucoup aider.
Dans la descente.
Dans la descente, là. Il faut quand même un ralentisseur. Mm-hmm. Sinon, quand vous, je ne sais pas, Arim, il y a aussi...
connais bien. Voilà. Il y a des ralentisseurs...
Ils ont mis au niveau de l'hôpital.
L'hôpital
à Thiébieu même.
Oui.
Mais dans la descente, là, non.
Oui, il y a également des ralentisseurs dans le village de Gbatoupé.
Mais pas que vous souhaitez, dans la descente.
C'est à l'entrée même en venant de Thiébieu.
Il faut le faire.
Merci beaucoup. Oui, mais je ne vois pas comment... Ça va être un peu... Je ne sais pas, je pensais que ça peut être un peu compliqué parce que vous savez comment construire nos voies. Dans la rase campagne, vous savez comment construire nos voies, c'est juste en aller-retour. Comment on met les ralentisseurs, soit sur le retour, puisque dans la montée, si on va mettre les ralentisseurs jusqu'au niveau de la montée, ceux qui vont monter à partir de Gbatoupé pour venir à Thiébieu, ça va être très compliqué, mais dans la descente peut-être, mais vu que la voie n'est pas une voie large.
C'est pas à double sens.
C'est pas une voie vraiment à double sens. Comment on pourra mettre ça? Ça peut être également un cas d'école, mais... Ça peut être également une solution, vu déjà que le ponceau qui est sur
grand,
le ponceau déjà à l'entrée de Gbatoupé n'est pas très grand. Ça peut être, je ne sais pas, une partie de la solution, mais prenons peut-être, je parle là aux agents du ministère des Travaux publics, prenons peut-être la peine des fois d'avoir une prospection dans le futur. Quand on construit des infrastructures comme ça, on a l'impression qu'on veut juste parer à quelque chose. Alors que très rapidement, le Togo est en train de s'agrandir, les villages s'agrandissent, avec comme ça, quand on met un ponceau comme ça, très rétrécis.
Didier, que tu as raison. Il faut que nous apprenions à rêver un peu grand.
Oui.
Regardez, je reviens encore sur deux routes emblématiques. La voie de Ségbé, qui coûte à Didier Gomé pour aller à Ségbé.
Ouais.
On ne peut pas comprendre qu'avec les grosses banlieues que nous avons jusqu'à la frontière avec le Ghana, qu'on n'ait pas pu faire une voie
deux voies. Oui.
Déjà, il y a embouteillage et vous passez une trentaine de minutes pour parcourir 3 km. L'autre voie emblématique, c'est la route Lomé-Vogan-Envoin. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de passer par là, de traverser les villages, notamment de Diagblé, à Veta et consort. On aurait quand même pu faire une route à double voie. Comme ça
a été fait à Nekor.
Aujourd'hui, quand vous allez à Nekor, que nous commencions à rêver grand.
Oui.
Et comme Manuela Santos est allée à ce forum au Maroc, souhaitons lui bonne chance qu'elle puisse décrocher des financements, d'autant plus qu'elle n'est pas la seule. La semaine dernière, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, était lui-même à ce premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, dont Mega Info nous dit que les participants à ce sommet unanime à renforcer le partenariat entre l'Arabie Saoudite, un seul pays, et l'Afrique, tout un continent avec 54 pays. Nouvelle opinion également nous en parle, participation active du président Faure Gnassingbé à ce sommet Arabie Saoudite Afrique, et que Togo Matin lui également nous parle du sujet. Mais se demande que gagne économiquement l'Afrique et dans le Togo à ce sommet Arabie Saoudite Afrique du Sud. C'est des sommets qui se multiplient. Ça a commencé par le sommet France-Afrique, et puis on est allé au sommet Union Européenne-Afrique, et puis c'est sommet Chine-Afrique, sommet Japon-Afrique,
Amérique,
Japon-Amérique, USA-Afrique,
Inde-Afrique.
Sommet Corée, Corée ouais. du Sud, Afrique, Inde-Afrique. Maintenant, on a eu Turquie-Afrique, oui. on a même failli avoir Israël-Afrique. Maintenant, nous avons Arabie Saoudite-Afrique. Et puis, quand ces sommets s'organisent, c'est tous nos chefs d'État qui se bousculent, qui se mettent à la queue leu-leu. Seulement, ils ne nous font pas souvent le retour. Hein? Ok, le sommet Arabie Saoudite-Afrique vient de naître et nous en parlons, Didier.
Non, mais oui, tu as su bien planter le décor et après on se demande. On se demande, il y a, selon les historiens et les politiciens, il y a une soixantaine d'années, l'Arabie Saoudite, par rapport à un certain nombre de pays africains, bon voilà, il n'y avait pas grand-chose à envier. Mais si aujourd'hui l'Arabie Saoudite est devenue pratiquement une puissance dans là-bas en Afrique, en Asie autant pour moi, et qui aujourd'hui se retrouve à organiser un sommet Arabie Saoudite-Afrique pendant que nos pays africains sont restés comme ils étaient depuis les années 60, ou même pire pour certains, qui ont dû reculer dans les années d'avant les indépendances au vu de leur niveau de développement. Aujourd'hui, ça pose véritablement un problème même de gouvernance au niveau de nos pays. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a de plus que le continent africain ou tous les autres pays? Peut-être que le pétrole. Mais quand on vient
nous avons le pétrole.
Oui, quand on vient sur le continent africain, il y a plein de pays qui ont le pétrole. Et d'autres pays en Afrique ont beaucoup d'autres ressources minières, d'autres ressources que les pays comme l'Arabie Saoudite n'ont pas. Mais comment est-ce que l'Arabie Saoudite a su bien gérer son pétrole au point de devenir aujourd'hui une puissance dans le monde entier, reconnue en tant que telle, qui a même intégré... qui va même intégrer
les BRICS
et tout ça, et que nous aujourd'hui en Afrique on se bouscule pour aller à Riyad participer à un sommet où des dirigeants saoudiens sont en train de promettre un peu quoi de l'eau aux pays africains, un peu comme on aura dit que la Russie Poutine a promis du blé à quelques pays africains.
Il y a également les sommets Russie-Afrique
naturellement, et donc le projet phare que l'Arabie Saoudite a déjà annoncé pour le continent africain, c'est qu'il y aura $1 milliard pour donner de l'eau aux pays africains. Mais c'est de l'insulte pour nous et pour nos dirigeants également. Si nous avons un continent assez riche comme ça, nous avons, donc on dit même que la RDC seule suffit pour nourrir, enfin pour alimenter le monde entier en eau potable.
L'Afrique.
Oui, l'Afrique naturellement d'abord, mais un peu eux-mêmes ils exagèrent là-bas, ils parlent du monde. Donc du coup, si on peut avoir de l'eau, tant de ressources d'eau par exemple en RDC, et qu'en RDC, des gens n'ont pas d'eau potable, et que c'est l'Arabie Saoudite.
Un désert.
Qui nous promet de l'eau. Mais c'est de l'insulte pour nos dirigeants. Et on voit à peu près quelle est nos politiques de développement, le niveau de développement et l'ambition que nos dirigeants ont même, en tant que dirigeants africains, l'ambition qu'ils ont pour le continent de façon globale et pour leur pays de façon un peu plus rétrécie. Donc, pour moi, ce sommet... ça a permis à certains chefs d'État de sortir un peu pour aller faire un peu, bon voilà, pour aller se chauffer les relations. On en a vu un peu Alassane Ouattara qui est allé saluer le premier ministre du Niger, le Niger qu'il a voulu combattre il y a quelques jours. Donc ça a permis quand même de se réconcilier entre certains chefs d'État africains, certains chefs de gouvernement. Mais après, au fond même du sommet, on se demande: qu'est-ce que l'Afrique gagne de plus en allant se ridiculiser?
Merci.
À mon avis.
Donc, Ouattara et le Premier ministre du Niger, hein, voisins ici, hein, en Afrique,
oui.
Ils ont dû se déplacer à Riyad pour se saluer.
Même Tinubu également, bon. Pour aller se saluer entre les trois.
On peut dire que le sommet Arabie Saoudite-Afrique a au moins produit ça, que le Niger retrouve la compréhension auprès de ses voisins immédiats. Je sais que le sujet vous tente, Jacques et Arim Yaou, mais souffrez que nous laissions ça et que nous allions plutôt à cette affaire qui défraie la chronique depuis bientôt 2 semaines. Il s'agit de cette affaire de cambriolage au domicile d'un ministre. Ça a commencé comme ça, par un tweet ou bien un message X de notre ami confrère Ferdinand, un ministre de la République victime de cambriolage à son domicile de campagne. Et puis dans la foulée, Hein, le confrère Loïc Lawson est allé avec des précisions sur le nom du ministre, également sur le montant supposé du cambriolage. Un autre confrère et ami, Anani Sosou, est allé également de ses commentaires. Mais tant que c'était sur les réseaux, nous, au Club de la Presse, on se prenait le temps pour recouper, pour approcher les bords, ici et là. Et puis, les journaux ont également commencé à s'y intéresser. Commençons par ce que le confrère Liberté écrivait le lundi 10 novembre à la page 5. D'un cambriolage à un autre. L'article dit, je cite, « Le domicile du grand commis de l'État et pasteur de son État a été visité par un ou des cambrioleurs. Une importante somme d'argent aurait été emportée. Certaines sources parlent de 400 millions de francs CFA, d'autres évoquent même des milliards. » L'article dit, hein, « Certains appellent la justice à s'auto-saisir, hein, d'autres invitent le ministre à rendre sa démission pour s'expliquer. » C'est ce que Liberté écrivait le lundi, vendredi 10 novembre. Mais déjà la veille, le jeudi 9 novembre, le confrère Dounia Le Monde écrivait à la page 4, vol présumé de 400 millions au domicile du ministre Adedie Akovie, toute la lumière. Pour Dounia, le domicile de Adedie a été bel et bien visité, la cible de malfaiteurs, le 23 septembre déjà. Et Dounia écrivait que notre rédaction a joint le ministre Adedie qui nous a fait savoir que l'affaire est confiée au service de la gendarmerie. Là, je cite Dounia. Et plus loin, qui écrit que les malfrats sont au nombre de 7, dont 3 sont déjà arrêtés. Et plus loin, l'article dit, c'est Dounia, outre la maison du ministre d'État qui a été cambriolée, des lieux de culte et des boutiques ont été également cambriolés à Kovie Centre, à Kovie Djemeke et Severo. Ça, c'était Dounia du 9. Et puis, je termine avec le confrère, le Télégramme du Togo, en date du 10 novembre aussi, qui écrivait « Affaire de vol de 400 millions de francs CFA. Qui a volé qui ?» Et si la justice nous aidait à voir clair dedans. Alors, le Télégramme du Togo est parti du message que le député Jerry Tama a posté sur les réseaux sociaux où il dit 400 millions volés chez un ministre pendant que les jeunes sont réduits à la mendicité. Et Jerry Tama qui continuait, l'information est suffisamment relayée par plusieurs sources qu'on ne peut plus parler de fake news. C'est ce qu'écrivait Jerry Tama, qui continue. Ce que cette information ne dit pas, c'est ce qu'il reste après les 400 millions et ce qui doit se retrouver dans d'autres domiciles. Et Jerry Tama continuait. Comme on l'a vu au Ghana, le procureur de la République ou la APLUSIA peuvent s'auto-saisir. Et Jerry Tama continue quand même que je serais surpris que cela n'arrive pas. Autre député qui s'est fait inviter dans ce débat, c'est Frédéric Abascaboua, qui a été reçu sur une radio consoeur. Il a été même reçu le week-end sur la chaîne TV2 avec ses commentaires. Voilà le point que je fais avant d'en venir à la convocation qui a été adressée à Loïc Lawson et à Nani Sosou de répondre ce matin à 10h à la brigade républicaine d'investigation. Jacques Djakouti, tout ce point-là avant que tu nous dises tes commentaires et ta compréhension de ce sujet.
Bon, vous savez, Issas, quand vous êtes un être humain sur cette terre, il faut vous attendre à toutes choses, de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et quand une bonne chose arrive dans votre vie, il faut être serein. L'homme est ainsi né, l'homme est ainsi créé. Parce que quand vous visitez un peu l'histoire biblique sur le parcours même de Jésus-Christ sur cette terre, il n'avait pas seulement que d'amis, il avait également des ennemis, mais il vivait également avec ses amis et ses ennemis. Juste pour dire que dès que nous sommes toujours en vie dans ce monde, il faut que nous puissions nous attendre à tout. Et lorsque, par exemple, un bonheur vous atteint, c'est une joie. Lorsque le malheur également vous atteint également, prenez ça sportivement. C'est pour vous dire que nous ne serons pas épargnés des tentations, nous ne serons pas épargnés également des défis que nous pourrons relever dans ce monde. Il est vrai que ce qui s'est passé avec le ministre d'État, Adedieye, sur le cambriolage de sa maison, il faut reconnaître que c'est des voleurs qui sont allés attaquer son domicile. Il faudrait d'abord remercier Dieu que ces voleurs n'ont pas attendu à sa vie, ni à la vie peut-être de ses proches. Ça, d'abord, remercier Dieu pour cela. Et comme l'article l'a dit, vous avez lu quelque part tout à l'heure que ceux qui ont commis ce forfait ont été arrêtés. C'est ce que vous venez de lire tout
non,
à l'heure.
Non, c'est ce que voilà. Dounia écrivait jeudi, après avoir contacté le ministre et son entourage.
C'est ça. Donc, comme ces voleurs l'ont été effectivement arrêtés, et ce qui serait bon dans cette histoire, c'est d'attendre l'instruction par rapport à ce qu'on a arrêté, et on verra la suite. Pour nos confrères, vous avez dit tout à l'heure, qui ont été également convoqués dans cette affaire, mon vœu le plus absolu, c'est qu'on puisse trouver effectivement intérêt d'entente par rapport à cette situation-là.
Voilà, Harry Miaou, pour la convocation adressée à Loïc Lawson et à Nani Sossou de répondre ce matin à 10h, il est seulement dit c'est affaire les concernant par rapport au ministre de la DG. Je ne sais pas si on peut établir formellement la relation entre la convocation ce matin avec ce qu'ils ont publié sur cette affaire de cambriolage. Harry Miaou.
Bon, n'étant plus président du CONAP, je n'ai pas vraiment eu le contour de cette affaire-là, mais sur les réseaux sociaux, nous avons dû lire tout ce qui s'écrit concernant les confrères. Nous avons dû entendre aussi et lire, comme tout le monde, ce qui se dit autour de ce cambriolage-là. Et moi, je voulais simplement dire que par rapport aux confrères, si c'est établi ou si après ici, on apprend que c'est pour cette affaire qu'ils ont été convoqués vivement, qu'il y ait une entente et qu'on ne puisse, je continue pas à le dire, jeter des journalistes derrière les géoles, mais qu'il y ait une entente pour qu'un dénouement heureux puisse être vu derrière cette affaire-là. Maintenant, concernant le dossier proprement dit, seul le confrère Sabi a pu dire, avoir approché.
Dounia le mot.
Dounia, excusez-moi, ce n'est même pas Sabi. Dounia, ce n'est même pas Sabi, c'est le journal.
Voilà.
Voilà. Seul le journal Dounia a pu, de façon professionnelle, approcher le concerné et a pu nous produire tout ce qui se dit autour de l'affaire. Bon, maintenant, nous, on attend, puisqu'il y a une procédure, comme cela se dit, qu'on a mis la main sur certains. Certains du groupe, on va attendre voir ce que l'instruction va donner. Et en ce moment, on avisera, on saura quoi dire autour de la question.
Eh bien, Didier Assogba, comme je le dis, c'est une affaire qui défrait la chronique depuis une dizaine de jours. Ça circule abondamment sur les réseaux avec les commentaires les plus épicés, les plus salés. Mais comme je l'ai dit, nous, au Club de la Presse, nous avons choisi le temps d'attendre, de recouper, d'approcher les uns les autres, et c'est ce point que nous faisons aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est avéré que la maison de ministre Adedieye à Kovi a été cambriolée. Quel est le montant des dégâts? Adedieye lui-même a confié à Dounia Le Monde qu'il a confié ça, cette affaire, à la gendarmerie et qu'il ne se prononce pas. Nous apprenons également que son domicile de Lomé également a été cambriolé. Et là, on n'a pas non plus une idée du montant des dégâts. Et au-delà de ce qui circule abondamment sur les réseaux, mais laissons le temps à la procédure, à la police, à la gendarmerie de nous situer. Et si jamais la convocation adressée à nos deux confrères est liée à cette affaire, courant la journée, on en saura davantage.
Oui, par rapport à la convocation, les intéressés ont dit clairement que c'est dans cette affaire, c'est enfin en lien avec cette affaire-là qu'ils sont convoqués. Et ça, il n'y a plus de mystère dessus. Je pense que les confrères ont essayé de faire ce qu'ils savent faire, c'est d'informer peut-être que on pourrait leur reprocher le canal qu'ils ont utilisé pour en parler, mais ils ont essayé de d'informer et comme tout le monde le dit et comme tout le monde s'en rend compte, le ministre lui-même le confirme, il y a eu au moins cambriolage à son domicile. Donc, c'est de ça que les journalistes ont parlé. Peut-être qu'on pourra épiloguer et discuter sur l'ampleur du dégât, le nombre de millions qui a été pris, on pourra continuer à en discuter. Certains ont dit que ça n'atteint pas 400 millions, d'autres ont dit que ça dépasse 400 millions, d'autres ont dit que, bon voilà, il y a eu beaucoup de choses autour. Mais ce qui est constant aujourd'hui, c'est d'abord que l'élément premier de l'information, c'est qu'il y a eu cambriolage au domicile du ministre. À partir de ce moment-là, je pense que le fait est au moins établi. Après, on pourra voir quelles sont les questions. On pourra, au sortir du studio, voir quelles ont été les questions qui ont été posées aux confrères ou ce qu'on leur reproche véritablement dans cette affaire-là, pour qu'on sache véritablement quels autres commentaires nous pouvons faire. Mais je pense, comme Jacques le disait, il a dit quelque chose dans son commentaire de façon sensible qui pourrait toucher des esprits assez avertis. C'est que même Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il avait été insulté, il avait été calomnié, on lui a fait subir beaucoup de choses. Je ne sais pas si à l'époque il n'y avait pas de justice à dans son pays ou dans ses contrées, mais on n'a jamais eu écho de ce que Jésus-Christ ait déporté, ses calomnies ou enfin, des commentaires des uns et des autres devant la justice. Mais on prend encore de recul pour voir quelles seraient les questions qui seront posées donc justement à nos deux confrères qui ont été convoqués pour qu'on voit véritablement ce qu'on leur reproche. Ce qui est constant, c'est qu'il y a eu le cambriolage. Vous discutez avec beaucoup de ressortissants du milieu. Moi, j'en connais un, on en a parlé. Il a dit que de l'argent a été volé chez le ministre de façon constante depuis plus de 8 mois avant qu'il ne s'en rende compte. Et que, voilà, il y a tellement de choses qui sont constantes. Des gens du village savent véritablement. Les responsables de Corvier en parlent. Donc, ce n'est pas caché, ce n'est pas un secret, ce cambriolage-là. Mais après, on verra ce qu'on demande aux confrères.
Merci. C'est un dossier que nous allons suivre. Mais des questions se posent ici et là. Comment est-ce que des ministres peuvent disposer de l'argent à domicile et qu'on le leur vole à intervalles réguliers dans un milieu où on a parlé de la journée mondiale du pauvre aujourd'hui, avec les pauvres que nous sommes, et aussi nombreux, à côté donc des gens qui ont des millions à la maison. Ça, c'est d'un. De deux, si vraiment cette convocation adressée à Loïc Lawson et à Nani Soussou est vraiment liée à cette affaire, ça peut ressusciter un douloureux souvenir. Il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques années, le ministre Adéjé, avec son collègue Puce Agbetome, sur également publication d'informations sur leur personne, ils avaient convoqué et ils avaient fait arrêter et Ferdinand Haïté et Joël Kossi-Vignoéga. Les deux là avaient été détenus pendant un moment, libérés dans des conditions dont on a parlé. Mais la suite, c'est qu'aujourd'hui, Ferdinand est en exil. Ferdinand a dû fuir le Togo parce que cette affaire a rebondi. Mais l'autre suite encore plus tragique, c'est que nous avons perdu Joël Kossi-Vignoéga. Alors, le même ADG qui fait convoquer des journalistes, j'espère que la suite ne sera pas aussi dramatique que ce que je viens d'évoquer. Nous allons terminer sur un volet d'humanisme. Jacques Diakouti, il y a quelque temps, le ministre de la Sécurité avait alerté sur les informations de la météorologie que nous allions avoir une pluviométrie abondante et que le barrage de Nangueto allait voir ses vannes ouvertes et qu'il s'en suivrait une inondation. Tout cela s'est avéré et les victimes, c'est la population en aval du fleuve Mono, notamment dans les préfectures de Bas-Mono et des lacs. Et ce week-end, on a vu le gouvernement dépêcher une délégation de 4 ministres aller apporter la solidarité du gouvernement à l'endroit des sinistrés des lacs et du Bas-Mono. Des journaux nous en parlent aujourd'hui, notamment Togo Matin, qui met à sa manchette les victimes de l'inondation dans la région des lacs 2, reçoivent une assistance du gouvernement. Nouvelle Opinion également nous en parle. Lac et Bamono, le chef de l'État qui apporte son soutien aux sinistrés. Moi, je préfère parler de la solidarité nationale que le gouvernement a manifesté par cette délégation de quatre ministres, plutôt que de parler du don personnel du chef de l'État. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jacques.
Non, je sais que ce qui est constant, c'est que il faut apprécier quand même tout le temps le geste que le gouvernement fait, et souvent aussi le chef de l'État. J'ai vu ce week-end Madame la ministre Ablambla Johnson avec une délégation pour aider ces populations sinistrées. C'est déjà une très bonne chose. Vous savez, lorsque les gens sont en difficulté, il faut toujours leur venir en aide. Et l'autre aspect, c'est que, vous savez, quelqu'un qui est en difficulté, et quand vous lui venez en aide, la personne est très contente. Et qui dit que quand quelqu'un est content, vous savez que c'est toute la famille également. Donc je crois que le geste que la ministre Ablambla Johnson et sa délégation ont posé la fois passée dans les lacs est vraiment une très bonne chose. Et nous invitons également. Il ne faut pas souvent attendre tout le temps qui est d'abord, par exemple, ces gens de sinistre avant d'aller aider les populations. Chagnao disait tout à l'heure que la plupart d'entre nous, aujourd'hui au Togo, vous voyez les gens marcher, les gens parlent seuls, vous posez des questions. Aujourd'hui, vous allez voir que chaque Togolais chante seul. On n'a plus besoin d'aller dans un studio pour enregistrer les chants des Togolais. C'est-à-dire que quelqu'un marche, il chante seul et il se réjouit de sa chanson. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, la personne traverse des moments difficiles. Donc, il faudrait aujourd'hui que le gouvernement puisse repenser une fois encore le vécu des Togolais que nous sommes. Il ne faut pas toujours s'attendre qu'il y ait par exemple une inondation, il y ait par exemple un incendie avant d'aller pouvoir aider les gens. Parce que c'est quand on est vivant qu'on arrive à jouir des fruits que nous avons. Mais lorsque nous mourons, les gens viennent, vous savez ça, certains quand ils vont aux obsèques, si c'est une femme qui est décédée, vous allez voir les hommes, ils portent les lunettes noires. Quand vous voyez un homme aller à des obsèques et l'homme là porte les lunettes noires, sachez que cet homme-là est en train d'admirer soit la femme de celui qui est décédé.
Jacques.
Non, c'est vrai. Non, c'est ça. Vous voyez un homme aller à des obsèques, porte les lunettes noires, c'est ça. Et lorsque vous voyez, par exemple, une femme aussi aller à des obsèques qui porte également des lunettes claires, c'est pour voir l'homme qui est à côté aussi.
Bon, vous voyez. Donc, comme c'est Jacques qui le dit, c'est nos commentaires de ma part.
Non, c'est pour vous dire quelque part, il faut une solidarité. Aidons-nous. Il ne faut pas attendre que les gens meurent avant de pouvoir effectivement leur apporter une solidarité.
Merci, merci. Mais j'avoue que j'ai eu, quand je suivais le reportage à la TVT, que c'est la localité de Avevé qui a abrité cette cérémonie. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à notre cher ami Lucien Djossou Mensah. C'est son village où nous étions allés plus d'une fois. Comme en Afrique, les bons ne sont jamais morts. Et comme c'est lundi qu'il venait au studio, Lucien, si tu es avec nous dans ce studio, nous te saluons. Et nous terminons par cette autre solidarité. Harry Miaou, c'est toi qui nous transportes. Quand je dis Barkwasi, c'est la préfecture de Loti.
De Loti.
Ok. C'est le député Noël de Pougne qui a encore fait montre de son sentiment de solidarité à l'endroit des siens quand il a fait construire et équiper une bibliothèque qui a été inaugurée le samedi 11 novembre dernier.
Vous avez bien fait de dire que qui a encore. Quand vous dites qu'il y a encore, ça veut dire que Noël de Pougne est connu pour cet élan de solidarité dans sa localité et d'ailleurs hors de cette localité parce que Noël a été vraiment présent partout sur le territoire. On l'a vu la rentrée dernière et l'année passée même à Kévé. On l'a vu dans d'autres préfectures. On l'a vu faire en sorte que certains enfants qui n'ont pas d'acte de naissance ou même des certificats de nationalité puissent les avoir. On l'a vu dans la grande savane au niveau de Dapaon, à Mandouri. Aujourd'hui, c'est dans sa localité, là où il est élu député, qu'il est allé implanter cette bibliothèque-là, après avoir fait des sommes nécessaires qu'il peut pour accompagner les écoles, que ce soit en fourniture scolaire, pour aider d'autres élèves qui sont vraiment dans la vulnérabilité. Il est venu aujourd'hui leur donner la maison du savoir. On parle de plus de 15 000 livres. Ça veut dire que le député d'Epoken a compris comment est-ce qu'on peut aller tirer la jeunesse vers l'essor du développement. Parce que le développement aussi, on parle de la route, on parle de la santé, mais également, on parle du savoir. On ne peut pas construire une nation quand on n'a pas de cadre de tout acabit au niveau de la santé, au niveau de dans tous les sens. Il faut comprendre que c'est par l'éducation qu'on peut aller faire ce Togo que nous rêvons. C'est dans l'éducation qu'on peut sortir toutes les bonnes graines. La grande pépinière, c'est au niveau de cette bibliothèque de plus de 15 000 livres que les jeunes de la localité pourront aller chercher ce savoir qui leur permettra
merci.
De décoller.
Les 15 livres diversifiés qui touchent toutes les matières, 15 000 manuels et livres qui touchent toutes les matières de tous les niveaux scolaires, d'un coût de 25 millions, toute la bibliothèque. Vraiment. Et nous apprenons que Noël de Pouken a engagé deux bibliothécaires qu'il a fait former et qu'il s'engage à payer jusqu'à tant qu'il aura les moyens, n'est-ce pas?
Oui, ça, il en aura.
Il en aura.
Puisque quand tu fais du bien, j'ai toujours dit, je viens
merci.
De dire.
Et puis, autre élément également, la bibliothèque est logée dans les locaux de Radio BAC FM,
et c'est ça,
qui est également une initiative de Noël.
Non, je crois qu'il faut quand même, c'est un jeune homme qui fait ses prouesses, il faut vraiment le féliciter pour tout ce qu'il est en train de faire. Je ne voudrais pas faire trop de jaloux au niveau du Nord, ma localité, mais vous savez, quand vous prenez par exemple quelqu'un comme Noël de Pouken, vous prenez quelqu'un comme Sambiani, le député, vous prenez
Sambiani Augustin,
voilà, vous prenez comme quelqu'un comme Madame Bakali et le ministre Yark, il faut reconnaître que c'est des gens quand même qui font beaucoup pour la localité. Je ne suis pas là, comme je l'ai dit, pas faire les jaloux, mais je sais quand même le travail que ces personnalités que je viens de citer sont en train de faire vraiment pour cette localité-là. Chapeau à tout ce qu'ils font pour cette localité. Il faudrait effectivement que l'élan s'accompagne, que la manœuvre puisse prendre pour aider effectivement cette jeunesse-là au niveau de cette localité.
Merci. Un auditeur qui doit sûrement bien connaître Noël de Pouken dit que c'est un petit homme, mais une grande âme.
Ah ben oui.
Merci, il est midi, passé de 2 minutes. Nous marquons notre pause. Pendant que Michel va adresser le clin d'œil de Canal FM à nos partenaires, vous apprêtez à composer le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75 pour co-animer avec nous.
93.5 Canal FM.
Eh bien, c'est parti sur les deux numéros, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, avec les trois confrères autour de moi pour recueillir vos questions, vos commentaires sur l'un ou l'autre sujet dont nous avons débattu. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour, Franck.
Oui.
Monsieur Garou.
Monsieur Garou.
Oui. Vous savez, l'affaire des 400 millions, là. Vous savez que les gens sont contents. Quelqu'un a perdu de l'argent, la population est contente. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Les gens là ont creusé un grand fossé entre la population et le gouvernement, même le chef de l'État. Les gens sont mécontents dans le pays. Je vais vous conter une histoire. Moi, j'ai travaillé pour une chef de la santé près de 10 ans. Je réclame mon argent, on me demande d'amener les papiers de l'OTS. Quand moi j'avais exécuté ce travail, est-ce que l'OTS est là? Il n'y a même pas OTS. C'est une façon de me bloquer. Et moi, j'ai répliqué au ministère, au ministre là, Midiawa. Il sait, moi j'ai pris l'avion plus de 100 fois dans ma vie et partout j'ai mis pied, la loi n'est pas rétroactive. Qu'il n'a pas le droit de me demander ce papier. Même un fermier au village ne peut pas me demander ça. Monsieur Tchania, au courant, le dossier le brûle la main ne peut pas faire travailler mon dossier.
Monsieur Garo, c'est un dossier que je connais un peu. C'est vrai que vous avez un contentieux avec le ministère de la Santé. Vous estimez avoir exécuté des marchés qui ne vous sont pas payés. Cela vous oppose au ministère de la Santé, dont le ministre Mijiawa. Mais il y a la justice, et si vous avez raison, la justice vous donnera raison. C'est l'état de droit que nous souhaitons. Merci, monsieur Garo. Deuxième auditeur, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Je salue tout le plateau. Hein.
Oui, nous saluons.
Bon, je voudrais parler de ce que j'ai à dire. C'est l'évangéliste Senghor. Hein.
Oui, je sais. Allez-y.
Il faut que les Togolais craignent Dieu. Tout à l'heure, vous venez de débattre sur la journée mondiale de la pauvreté où Jacques Dakouti, qui vient de faire des pas avant de venir au studio, où quand Dieu bénit une personne, tu dois bénir. C'est-à-dire Dieu te bénit. Et il faut que toi aussi tu bénis. Ou bien j'ai menti et ça.
Non, allez-y, nous écoutons.
Voilà. Mais comment est-ce que vraiment, je ne comprends pas où quelqu'un, ou bien quelqu'un que Dieu a béni, je ne sais pas comment, hein. Mais il a des plus de 400 millions dans sa chambre.
Non, l'ami évangéliste, nous, ce qui est avéré, c'est qu'il y a eu un voire deux cambriolages dans les domiciles du ministre Adjedje. Il n'est pas avéré encore le montant du sinistre. C'est vrai que des chiffres circulent, mais nous voudrions parler des choses avérées, incontestables.
Et attendez, monsieur Stas, vous-même là. Parce que nous avons appris, on dit 400 millions. Quand on dit 400 millions, c'est combien?
Oui, évangéliste, nous entendons beaucoup de choses, mais nous voudrions nous assurer de la véracité absolue avant de donner des chiffres.
Il y a la femme d'Ali Bongo au Gabon qui est en prison, ou son fils aussi est en prison.
Nous en avons abondamment parlé nous-mêmes ici.
Bon, maintenant, qu'est-ce que la justice peut nous dire? Vous voyez? Parce que quoi, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui laisse l'argent dans sa chambre au village, et au même moment, les gens sont qui cherchent à manger, ils n'en trouvent pas. Mais craignons Dieu.
Merci. Hein, d'autres voix plus autorisées ont souhaité que la justice s'auto-saisisse. Pourquoi pas la A plus IA? Hein, que ces instances s'auto-saisissent pour qu'on voit la graine au fin fond de cette affaire. Troisième auditeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Johannes.
Comme là, plutôt.
Oui, comme là, Johannes.
Ok, allez-y.
Comme j'ai toujours dit que Johannes n'est pas non plus un prénom importé, donc...
Si, c'est importé.
Non.
Johannes n'est pas togolais, comme vous le savez très bien.
Johannes, c'est Jean Anneli.
Ok.
Voilà. Comme nous avons hérité de la langue allemande, c'est pourquoi.
Ok.
Je vais commencer par l'accident. Vous savez, moi j'ai toujours dit, en tout temps, lorsque cette affaire de casque est sortie, j'ai toujours dénoncé le fait que nos dirigeants se concentrent sur les choses qui ne sont pas en lien direct, qui ne sont pas des causes directes des accidents. On se concentre sur ceux qui mettent en danger leur propre vie et on laisse libre cours à ceux qui mettent en danger la vie des autres. Moi, j'ai toujours dénoncé ça. Mais c'est encore les journalistes qui disent, bon, c'est une bonne mesure, il y a beaucoup de motos qui causent des accidents, mais dites-vous que lorsque c'est la voiture qui est concernée par un accident, le nombre de victimes est encore plus grand. Donc on se concentre sur les mesures qui peuvent réellement faire diminuer les accidents. Je n'ai jamais entendu dans ce pays de Lumière s'incasser qu'un usager de la route a été une fois arrêté pour excès d'accident. Je ne sais pas si vous connaissez un seul usager qui a été une fois arrêté pour excès d'accident.
Vous nous faites honneur en faisant de nous les journalistes les boucs émissaires que vous chargez de tous les mots, mais je vous rappelle, notre travail consiste seulement à vous informer avec des commentaires que nous souhaitons
le plus complet possible. Une analyse que je suis en train de faire.
Merci Johannes, mais le temps dure, il y a d'autres qui attendent au bout de la ligne aussi. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Monsieur Niamavo.
Monsieur Niamavo, allez-y.
Oui, je crois savoir que quand même la maison a été cambriolée.
Oui, ça c'est une évidence.
Ça c'est une évidence. Et je crois le ministre a osé peut-être non, bon, pas oser avoir contrôle au village, puisque les autres ministres du gouvernement, même s'ils sont à la retraite, on sait que très souvent, ils ont au moins deux corps armés, deux corps habillés pour garder leur maison. Les premières personnes, s'il a gardé au moins les corps habillés, les premières personnes à être interpellées, c'est les corps habillés. Pourquoi je dis là oser? S'il n'a pas mis un corps habillé comme ses confrères ministres le font, ou bien je mens. Vous constatez avec moi que tous les ministres...
Non, c'est vous qui parlez, allez-y, nous suivons.
Ou bien, je m'en...
Non, non, allez-y.
Donc, au moins...
Moi, je n'ai pas inventorié le personnel de sécurité au domicile des autorités.
Allô?
Je n'ai pas inventorié le personnel de sécurité au domicile des grandes personnalités.
Donc, généralement, c'est comme ça. Donc, lui aussi, il doit avoir les fonds, l'argent, pour aussi payer les soldats pour lui garder sa maison. Et ça devait être les premières personnes à être interpellées. Mmh. Et laisser les journalistes tranquilles pour faire le travail. Merci.
Je vous en prie. Le suivant, bonjour. Ah, il est parti. Je rappelle que nous avons parlé des accidents, de l'accident de Gbatopé. On a également parlé de ce problème-là qui fait que les camions sont alignés vers le nord du Togo. Problème de taxes aux frontières. On a parlé également de ces deux projets. Le chemin de fer Lomé-Saint-Cassé et l'autoroute Lomé-Saint-Cassé aussi. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau, mon fils Jacoti.
Bonjour, Papa Sibiti.
Tous vos fils vous saluent, Papa Sibiti.
Merci beaucoup. Il y a longtemps, c'est la ligne qui est difficile.
Mm-hmm.
Bon, je voudrais tout d'abord remercier mon fils Jacoti qui dit si quelqu'un vient demander votre service, pour le lui rendre. Ce que beaucoup de Togolais ne font pas. Maintenant, concernant le vol, l'argent, les milliards, vous comptez plus que moi. Combien d'années quelqu'un va faire pour dépenser un milliard? Nous l'avons dit, il faut que les gens soient humains, qu'ils fassent des sacrifices. On a dit, quelqu'un, vous êtes chrétien, à la radio Lomé, il est à 5h, 4h et quelques, il dit bon. Quelqu'un, avant de mourir, a demandé qu'on écrive sur son tombeau, sur sa tombe. Ce que j'ai, en mourant, je l'ai laissé, mais les biens, les services que j'ai rendus, au ciel, personne ne va me les voler.
Mm-hmm.
Ils m'appartiennent. Donc, que les Togolais, nos autorités le sachent pour qu'on les applaudisse.
Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. Qui passe le témoin au suivant? Bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Komi.
Komi.
Oui.
Voilà, nous vous écoutons.
Je suis l'affaire du vol.
Oui.
Moi, j'aimerais interpeller le chef de l'État.
Mm-hmm.
Parce que ces derniers temps, la manne ne descend plus du ciel.
Donc, il y a une tension financière dans le pays.
Oui.
Mm-hmm.
Et que Dieu ne peut plus encore lui donner des occasions sur plateau d'or comme ça. Lui-même nous a déjà dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens de la société.
Au dépend de la grande majorité.
Merci beaucoup. Voilà qu'il vient de présenter deux bons projets pour les infrastructures routières et qu'il a besoin d'argent. Il circule de gauche à droite pour aller chercher de l'argent. Ou le ciel lui donne l'occasion qu'il y a de l'argent dans ta maison. Tu fais quoi? Tu reviens à la maison, tu mets le garde-fou pour pouvoir avoir cet argent-là pour financer tes projets. Donc, je l'interpelle vivement. Il y a la débandade dans la maison. Les gens se posent sur cette affaire de l'autre la ministre pour pouvoir verrouiller encore leur sécurité par rapport.
Allô, Kobi? Il est parti. Nous l'avons perdu, malheureusement. Nous retrouvons un autre bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Ça, c'est Bozambo.
Bozambo.
Oui.
Nous vous écoutons.
L'accident qui a produit à Gbatopé là.
Oui.
Il me semble que c'est Gère qui est bitumé cette voie-là. Il y avait des ponts sur les voies. Pourquoi ils n'ont pas agrandi les ponts? Les anciens ponts. Et au moins, ils doivent élargir un peu. Donc, arriver sur le pont, donc deux voitures ne peuvent pas doubler.
Oui.
Donc, nous sommes sur le 21e siècle. On ramasse le clinker à Tabligo.
Oui.
Donc, arriver là-bas, donc d'autres voitures qui est derrière, il est en vitesse. Il y avait d'autres derrière qui savent qu'il arrive au pont. Donc, il n'y a pas de panneau de signalisation sur la route que
mm-hmm.
ici, il faut rouler à 30 km, bien 20 km.
Oui.
Pourquoi les autorités sont refusées de faire des panneaux de signalisation sur la route?
Oui.
Au côté de dedans, ils n'arrivent même pas à faire. C'est la faute du gouvernement, bien c'est la faute des mairies, bien c'est la faute de qui, des Togolais.
Déjà, donc, vous posez le problème.
Oui.
Pour ce que vous dites là, il faut remonter au terme du marché
oui.
que Gère avait exécuté.
Uh-huh.
Et puis nous avons dit que nous sommes interpellés, notamment le gouvernement, de rêver grand. Oui. On peut commencer, on doit même commencer à faire des routes beaucoup plus larges que ces couloirs que nous continuons à faire. On a parlé de la route de Ségbé qui est déjà dépassée. On a parlé de la route Lomé-Voga-Enfoin qui est déjà dépassée. Oui. La route Tchévier-Tablibou est déjà dépassée alors qu'elle a juste quelques années d'âge. Il faut vraiment que nous rêvions grand.
Donc, on dit qu'il y avait des contrôles routiers. Quel rapport ils donnent aux États que le travail est fini? Donc, il faut que le chef de l'État ramasse ces gens-là. Donc, il le trompe. Ils font d'autres choses. Ils viennent de rencontrer d'autres choses. Donc, regardez les vies des parents et des enfants.
Merci beaucoup, Monsanto. Nous nous inclinons devant la mémoire de ces personnes que nous avons perdues là-bas à Gbatopé. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Oui, c'est comme là, Johannes qui revient.
Ok, bon retour. Allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Ok. Concernant cette fameuse affaire de vol, je me rends compte que les journalistes sur le plateau ont porté assez de gants pour ne pas... C'est vrai que l'affaire va aller en justice. Mais ça n'empêche pas une certaine analyse quand même.
Eh bien, faites votre analyse, vous, comme là. Allez-y.
Non, je dis que même ceux qui... les journalistes qui en ont parlé dans leurs journaux ont toujours parlé au conditionnel. Donc, je ne vois pas le fait d'en parler ou bien de... C'est difficile même de parler du montant exact. Voilà, donc
vous avez suivi le point que j'ai fait en début du débat.
Pardon?
Vous avez écouté le point que j'ai fait sur le sujet avant que les confrères commentent?
Oui, je parle justement de l'analyse de vos confrères. Parce qu'on n'a rien retenu. En fait, ils ont presque rien dit. Donc je me dis...
Ok, maintenant, dites-nous ce que vous connaissez sur l'affaire.
Moi, je fais une analyse sur l'émission que vous avez faite.
Ok, merci beaucoup, Komla. Encore une fois, le journaliste, nous ne sommes pas juges, encore moins procureurs. Notre travail consiste à vous informer et à apporter le maximum d'éclairage sur tous les angles avérés de l'affaire et nous vous laissons tirer les conclusions. Merci beaucoup à tous les auditeurs, M. Gado, Évangéliste Senghor, l'ami Komla, Johannes par deux fois. Monsieur Nyamavo, Papa Sibiti, Komi, Bozambo, et bien Didier Assoba et Harry Miaou de Jacques, une minute à chacun pour faire la synthèse.
Non, c'est assez intéressant que chacun veuille à ce que les journalistes disent des choses, un peu comme pour que les journalistes mangent leur piment dans leur bouche. Mais après, nous faisons un travail qui est codé, qui a des règles. Il y a de la déontologie, il y a l'éthique, il y a
non, tout. Plutôt un travail qui est codifié.
Ah, codifié, autant pour moi. Codifié au lieu de coder, codifié. Et donc, nous respectons, même quand nous faisons les débats ici, quand nous parlons comme ça ici, nous ne parlons pas comme quelqu'un dirait ouya ouya. Nous parlons en ayant en tête, en ayant en esprit que notre travail est codifié. Il faut que nous respectons les codes là, tout le temps que nous intervenons ici. C'est pour ça que si nous disons des choses... Et nous affirmons des choses, c'est parce que nous sommes sûrs d'avoir la véracité de ces choses-là et également d'être protégés par les tests. Dans le cas d'espèces, j'ai déjà dit que le fait avéré, et le journaliste ne travaille que sur les faits, le fait avéré aujourd'hui, c'est qu'il y a cambriolage. Et ça, tout le monde sait. Même le ministre en question ne nie pas qu'il y ait cambriolage par deux fois au moins dans ses domiciles. Ça, c'est clair et c'est avéré. Maintenant, combien de millions ont été pris? C'est pour ça, nous tous, nous disons aujourd'hui, on n'était pas là-bas. Il n'y a pas de journaliste parmi les voleurs, hein, à ce que je sache. Il n'y avait aucun journaliste parmi les voleurs pour connaître le montant réel des millions qui ont été pris. Ni aujourd'hui, la justice n'a pas encore fait la lumière sur l'affaire pour savoir quelle est l'ampleur du dégât. Peut-être que seule la victime peut nous dire combien de millions on a pris chez lui, chez elle, mais aujourd'hui, lui non plus n'en a pas parlé. Donc, on attend de voir clair jusqu'où va l'affaire pour que, une fois que les officiers de police judiciaire auront fini de faire la lumière, s'il y a le montant réel, nous reviendrons ici pour en donner aux auditeurs. Donc, qu'on charge les journalistes de ne pas en parler. Déjà, nous parlons, nous parlons de cette affaire. Nous en avons parlé, certains ont déjà écrit dessus pour la plupart. Et donc, si vous voulez connaître le montant exact, on attend tous. On sait tous que ce sont des millions. Mais combien de millions, on ne sait pas.
Ou bien si un auditeur a disons, le montant exact avec toutes les preuves.
Un auditeur comme M. Komla Johannes.
Qui nous aide à bien le servir.
Qui nous aiderait.
Arimiaou Tchanyaou.
Non, je voudrais dire, Didier l'a dit, nous travaillons avec un code de travail qui nous donne la main et à la fois des limites. Et je voudrais dire à cet auditeur que la parole, c'est comme une bombe. Avant de dire quelque chose, surtout sur une radio comme celle-ci, il faut tourner par 5 ou 10 fois la langue, voir ce qu'on peut sortir, et que ce qu'on doit sortir doit être concret et doit être véridique et vérifiable. C'est pour cela qu'il a bien dit que nous avons porté des gants. Une affaire qui est en pleine instruction, qui est dans les mains de la gendarmerie ou de la police, et que nous n'avons pas le dossier, je ne crois pas qu'on peut se donner ce vilain plaisir de dire ici avec véhémence que bon, voilà, c'est ça la vérité, et que demain, qu'on dise que c'est Tchanyaou, c'est Sass, ou c'est Didier, ou Djakouti qui l'a dit, et où, sur Canal, on va prendre nos propos comme étant des vérités, alors que nous n'avons pas. Nous sommes en train de freiner. On cherche à avoir les vrais contours de ce dossier, et une fois que nous l'aurons, comme d'habitude, comme vous nous le connaissez, nous reviendrons encore le dire ici. Il ne faut pas prononcer des choses avant de voir ce que ça peut causer comme dégâts et au bout comme conséquence, et qu'on cherche maintenant à ravaler ou bien à dire que non.
Pour venir faire un rectificatif.
Après le plaidoyer que nous faisons dans cette affaire, et comme toujours nous avons dit que nous avons tellement évolué qu'on ne peut pas empêcher aux journalistes aujourd'hui d'utiliser des réseaux sociaux comme des canaux d'information. Une fois que quelqu'un a la qualité de journaliste et qu'il parle de certaines choses,
on peut plus le pousser. On va écouter Jacques rapidement, s'il te plaît.
Non, je crois que, comme je l'avais dit tout au début, il faudrait effectivement que la sagesse puisse primer par rapport à ce dossier. Et vous l'avez tout résumé tout au début de cette affaire. Moi, ma prière la plus absolue, c'est que on puisse trouver vraiment un terrain d'entente par rapport à cette histoire. Donc, mon plaidoyer le plus vers le ministre et vers effectivement nos confrères aujourd'hui, c'est que chacun, à son niveau, a reconnu effectivement ce qui s'est passé, parce que nous avons lu le tweet de Loïc. Nous avons vu lui.
Non, le premier tweet, c'était de Ferdinand. Voilà. Ensuite, Loïc a continué avec des précisions sur le nom, le montant. Voilà. Et c'est après que Anani Soussou est
entré dans le jeu. Voilà. Et Loïc a encore tweeté ce matin. Mm-hmm. Et Anani Soussou également. Donc,
Et déjà, dans leur tweet de ce matin, aussi bien Anani que Loïc relativisent le montant.
C'est ça. Donc, je crois que, croisons les doigts, et le plus important, c'est que on puisse vraiment trouver un terrain d'entente. Je voulais m'arrêter en interpellant le ministre des Transports. Mm-hmm. Ça, vous savez, il y a un problème au niveau du ministre des Transports routiers. Lorsque vous voulez, par exemple, changer votre permis, vous déposez, par exemple, la demande pour renouveler votre permis, je vous dis, ça prend des mois avant qu'on vous donne le nouveau permis. Mm-hmm. Je voulais vraiment interpeller le ministre, M. Atchadeji, d'accélérer effectivement ce niveau-là. Il y a également le problème des cartes grises. Hein, pour obtenir aujourd'hui sa carte grise et son permis, au niveau effectivement de le service de transport, c'est la croix et la bannière. Franchement, que le ministre fasse quelque chose pour qu'on puisse décanter effectivement la situation au niveau effectivement du transport.
Merci, merci à toi Jacques, merci à toi Loïc, Arimiaou, merci à toi Didier, merci aux techniciens.
Ça, remercie effectivement
Victor Boy et Géraud, oui.
Remercie le prêtre là qui m'a envoyé, il y a un prêtre qui m'a envoyé un timoni pour remettre à ces trois femmes là. Je ne connais pas son nom, mais je voudrais sincèrement le remercier pour son geste.
Merci. Ce révérend père qui a écouté le message de Djakouti et qui a souhaité participer à la solidarité, envoyer quelque chose pour soulager la peine de cette dame. Merci à vous, révérend père, cher ami, et qui nous rappelle que c'est le 13 novembre, journée mondiale des pauvres. Et comme nous l'avons dit, ce n'est pas la pauvreté que nous chérissons, que nous défendons, mais nous nous invitons à soigner la dignité du pauvre autour de nous. Nous nous invitons à avoir un regard, un geste de cœur et de solidarité à un pauvre, à une pauvre autour de nous. Merci à vous, mon père, encore une fois. Et pour cette affaire de vol au domicile du ministre, nous apprenons, hein, avec des confrères présents sur les lieux, que Loïc et Anani Sossou sont effectivement en interrogatoire à la BRI. D'ici demain, nous reviendrons sur le déroulement de cet interrogatoire, s'ils auraient été inculpés ou relâchés. Mais nous rappelons que il y a exactement 2 ans, le ministre Adjedje et son collègue Pius Agbetome ont fait arrêter et détenir 2 journalistes, Ferdinand Haïté et Joël Vignan-Ega. Les suites, c'est qu'aujourd'hui, Ferdinand se retrouve en exil et que Joël se retrouve sous terre. Est-ce que ce qui commence aujourd'hui va connaître le même dénouement tragique qu'il y a 2 ans? Nous en interpellons la conscience de nous tous et surtout la conscience d'évangéliste qu'est M. Adjedje Kodjo.